de grands dessinateurs, artistes, parce qu'un parent...
Et dessinatrice aussi.
Ouais, dessinatrice aussi.
Nous allons recevoir Nicolas Parjean. Merci, Nicolas, de venir à ce micro.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes expert en sécurité numérique, enseignant à l'École nationale supérieure de la police et auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité aux Presses universitaires de France. Enki Bilal parle d'un bug où toutes les mémoires de tous les ordinateurs, de tous les centraux disparaîtraient et seraient totalement effacées. C'est possible?
Alors bien sûr, pourquoi? Parce que c'est de la technique, et donc de la technique qui a été créée, composée par des humains, elle est donc faillible, et dès lors qu'il y aurait en plus une intention de nuire de la part d'activistes, de techniciens, d'experts, militants, politiques ou crapuleux, oui bien sûr, en tout cas il n'y a pas d'explication suprême qui pourrait dire non, c'est interdit, ça ne peut pas se passer.
Est-ce qu'on met en place des systèmes de sécurité? On voit dans la bande dessinée que finalement les codes nucléaires sont écrits sur un papier, mais ils sont ou dans un coffre sécurisé où il faut un code.
Alors effectivement, en fait c'est la démarche que connaissent les psychiatres de résilience. C'est-à-dire que faute de pouvoir empêcher le traumatisme, il va falloir déjà s'y préparer et surtout le détecter le plus tôt possible, de manière à éviter la contamination, éviter que justement il y ait un effet viral en quelque sorte. C'est-à-dire que ça va passer par quoi? Par des outils de détection et ensuite par une segmentation, un cloisonnement, de manière à ce que s'il doit y avoir une infection, celle-ci ne se propage pas.
Circonscrire comme le feu, quoi.
Exactement. Un départ de feu, ça s'éteint avec deux seaux d'eau. Si vous arrivez trop tard, il vous faut des canadaires qui tournent 24/7 pendant plusieurs jours.
Alors, donc ça veut dire que tous les GAFA, les Google, les autres, Amazon et compagnie...
Tous les acteurs du numérique.
Quelle que soit la taille.
Quelle que soit, mais même vous en tant que consommateur, vous en tant que citoyen, on va vous recommander par exemple de conserver des sauvegardes même de vos photos de famille, c'est-à-dire partez de l'idée que, bon, vous l'avez sur votre ordinateur,
téléphone... Mais ça c'est un piège. Alors, je suis désolé, je suis obligé de vous le raconter.
Oui,
évidemment, les photos maintenant sont sur des ordinateurs et ne sont plus dans des albums photos. Donc évidemment, on dit, prends un disque dur à côté pour sauvegarder. Donc évidemment, on le fait. Et puis, quelques mois après, l'ordinateur plante.
Oui.
Et là, on se dit, les photos de famille, elles sont où? Elles sont dans le disque dur. Ah super, donc on répare l'ordinateur et puis on rallume le disque dur. Et là, disque dur, bug. Et on réagit, mais pourquoi il bug le disque dur? Et on me dit, mais parce que tu l'as pas rallumé assez souvent, le disque dur. Et donc, j'aurais dû faire quoi? Et là, on me dit clairement, t'aurais dû faire une sauvegarde de ta sauvegarde.
Ouais. Alors, effectivement,
et
pourquoi?
Et là, on pète un câble, on est d'accord.
Effectivement, le problème, c'est qu'on a une illusion de permanence avec la disponibilité de l'information. Lorsque vous dites, quand j'appuie sur mon ordinateur, je peux récupérer mes courriels, je peux récupérer mes photos, j'ai donc une illusion de disponibilité continue.
Ouais.
C'est vrai, effectivement, que c'est fragile. D'ailleurs, vous l'avez bien vu vous-même quand vous aviez des CD, un CD que vous estimiez, alors dans l'ancien temps, être quelque chose de robuste, quelque chose de durable. Bah non, effectivement, déjà, ça pouvait se rayer physiquement.
Oui.
Ça
buguait pas.
Alors, ça buguait pas, mais ça pouvait effectivement...
Ça peut
surtout
s'abîmer, mais ça ne buguait pas.
Alors, sauf si c'est... Voilà, il fallait pas que ce soit rayé, mais effectivement, vous aviez cette relative durabilité. Simplement, on est là dans un outil technique. Un peu comme des archivistes. Mm-hmm. Vous savez, quand vous allez à la Bibliothèque nationale de France, quand vous allez dans les musées, bah il faut de l'hygrométrie, il faut des conditions, on n'expose pas au soleil des incunables. Donc là, c'est un peu la même chose. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'on transfère à chaque particulier qui est à la fois producteur, diffuseur d'informations, cette responsabilité en quelque sorte d'archivage.
Alors,
et de conservation.
Parlons des hackers, puisque c'est l'un des soucis de la cybersécurité, c'est d'empêcher que des personnes rentrent justement dans ces ordinateurs, ou en tout cas les manipulent à distance.
Alors même si le terme de hacker, faut être très clair en sémantique, ce n'est pas quelque chose par nature malveillant. Un hacker, c'est un état d'esprit très positif. On recherche dans les administrations, dans les entreprises, des hackers. Un hacker, c'est quelqu'un qui, quand il voit une technologie, cherche à la comprendre. C'est très important. C'est-à-dire quelqu'un qui refuse d'être un utilisateur passif d'une technologie développée par d'autres.
Alors,
j'avais
compris que le hacker était une espèce de pirate informatique, et que lorsqu'il a réussissé à craquer un code secret ou à rentrer dans
trouver une faille. Donc, vous voyez la relation. Alors ça, en fait, on a maintenant normalisé ça dans des opérations qu'on appelle, alors dans un terme un peu barbare, qui s'appelle le bug bounty, c'est-à-dire que effectivement, vous avez des entreprises, des administrations qui vont dire, écoutez, voilà, moi j'ai lancé par exemple les services de l'État ont lancé une nouvelle application, ceux qui veulent essayer de trouver une faille. Par contre, évidemment, on va ajouter une dimension qui est l'éthique. C'est pour ça que c'est pas tellement la morale, le bien, le mal. C'est quelqu'un qui va être conscient de son expertise et qui va l'utiliser de manière vertueuse. Alors ça n'empêche qu'il y a des hackers crapuleux, malveillants, idéologues, et ça ne l'empêche pas, c'est très humain, mais peu technique.
On ne pourra pas se passer de la numérisation, du numérique et de cette technologie. On vit avec et on va continuer de vivre avec, mais pensez-vous qu'il va falloir régler sa consommation de numérique au même titre qu'il faut régler les pots d'échappement du diesel et autres, parce que un mail pollue, même si on n'imprime pas.
Alors oui, alors ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez l'archivage de vos mails, effectivement, en fait, vous sollicitez des capacités de stockage, et donc même en tant qu'individu particulier, alors dans votre vie personnelle, professionnelle, votre système de messagerie, bah oui, parce que en fait, il conserve un peu comme une mémoire active, donc qui exige des capacités de stockage, de l'énergie. C'est pour ça qu'on vous incite à vider les poubelles de vos boîtes mails, à éviter de stocker des photos qui naissent ou des pièces jointes qui n'ont pas d'utilité, parce que tout cela pour maintenir la disponibilité exige de la consommation d'énergie, et effectivement c'est quelque chose qui peut être aussi réduit.
Donc il peut y avoir une taxe carbone de mail ou de numérique, parce
alors
que ça consomme.
En tout cas on peut l'envisager, puisque effectivement c'est pour ça d'ailleurs que les hébergeurs de ces solutions essayent souvent d'ailleurs d'être localisés dans des territoires climatiquement plus cléments. Pourquoi? Parce que ça va réduire leurs dépenses en termes d'énergie pour refroidir ces infrastructures qui ont besoin justement d'être conservées à une certaine mesure. Même certains envisagent de les mettre sous l'eau de manière à être refroidis en continu, ce qui d'ailleurs n'est pas totalement neutre pour l'écosystème marin qui, lui, de facto, va se retrouver même localement réchauffé. Donc on voit bien qu'on a cette consommation d'énergie en continu.
Enki Bilal, est-ce que vous êtes documenté pour écrire Bug?
Pas énormément, volontairement, mais je sais que ce livre va me servir pour l'aspect. Non, vraiment, la cybersécurité, oui, on va être confronté à ça dans la suite. Je me suis plutôt sur le plan humain, le facteur humain, les psychologues, les psychiatres qui parlaient de ça, des addictions notamment, des jeunes. Donc quand j'évoque l'idée de suicide de certains jeunes qui privés de leur
qui n'existe plus parce qu'ils n'ont
et
plus
ça c'est une réalité l'application. Donc c'est assez terrifiant.
Et puis vous développez l'idée aussi de la surpuissance, c'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure des données qui peuvent disparaître du disque dur tout d'un coup, qui peut ne plus fonctionner. C'est la même chose avec des photos. Si un feu se déclare dans sa maison, mais on pense que parce que c'est technologique, c'est forcément viable et que on l'aura à vie sous les mains.
Là où le numérique a alors un avantage, c'est la duplication. Le fait que ce qu'on appelle en français l'information nuagique, alors le cloud computing en anglais, c'est le fait en fait que votre donnée va être répliquée à différents endroits. Simplement, on revient au problème qu'évoquait Nagui, c'est-à-dire de la démultiplication de la consommation d'énergie, mais la disponibilité
du côté privé aussi des informations, parce que tout balancer sur un cloud, on en revient à ce que Marc Dugain fait dans Transparence, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ces informations et à ces données.
Enfin, pourrait y avoir accès si vous n'avez pas.
Mais il a accès, on sait bien comment. Trump a été élu, écoutez.
Alors,
c'est la manipulation.
Et vous voyez qu'on a parlé technologie et assez vite, on va glisser vers des valeurs éminemment humaines. On a parlé d'éthique. Là, on va parler de confiance. Est-ce que vous avez confiance dans le dispositif? Est-ce que vous avez confiance dans l'hébergeur?
Et on va arriver au point Goldwyn, c'est ça?
Non, ça ne va pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne fera pas l'économie dans un monde numérique de réflexion humaine, de réflexion conceptuelle, philosophique. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser les sujets techniques aux seuls techniciens. Parce que sinon, en fait, un technicien fera quelque chose qui ira toujours plus vite, plus loin, avec plus d'intensité, parce que au fur et à mesure que la technologie innove. Et donc, il faut mettre de l'humain pour savoir, justement, pareil, dans les outils de géolocalisation, dans les outils de croisement de données, de le fait qu'on puisse avoir de la reconnaissance faciale combinée avec votre géolocalisation et combinée avec vos dépenses. Déjà, si vous avez ces trois facteurs réunis sur une période assez longue, vous avez un profil. Google vous propose d'accéder à titre personnel, individuellement, à vos 5 ans d'historique de recherche. Faites cette demande, vous pouvez, par retour de mail, vous allez recevoir un petit fichier qui vous dit voilà ce que vous avez recherché depuis 5 ans. Je vous assure que refaites cet exercice, il est gratuit.
Oh là là là.
Et vous allez voir, vous allez peut-être dans certaines circonstances trouver, identifier et vous rappeler précisément pourquoi vous avez formulé telle ou telle requête. Et puis quelquefois, vous allez vraiment être assez dubitatif. Il n'empêche que...
Et brûler le document évidemment pour pas que la police le retrouve.
Vous verrez, mais comme vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Dit-on, oui, il faut la présomption d'innocence, mais tout de même, c'est vrai que la question...
Autrement dit, alors, même quand vous effacez l'historique de vos recherches, il reste enregistré chez Google.
Bien sûr, qu'il y a 5, et il y a 5 ans. Et je vous assure
c'est
que 5 ans,
totale.
En termes de profondeur, en termes de profondeur, mais de la même manière que si vous avez un téléphone et vous avez laissé la géolocalisation, il y a un historique de l'ensemble de vos déplacements. Et vos déplacements, c'est pas vous étiez à Paris 16e, non, vous étiez 116 avenue du président Kennedy, tel jour, à telle heure.
Au 6e étage.
Et alors, pas encore, parce que ça ne fait pas les
avec
profondeurs.
Avec un tel et une
ouais,
telle.
On peut dire de qui on était proche.
Mais exactement, parce que si on a la même information sur d'autres personnes, on est foutu. En fait, on a un historique de avec qui vous étiez, où, pendant combien de temps. Mais c'est la même chose avec
Nicolas,
le bracelet connecté.
Nicolas, oui, alors ça, le rythme cardiaque et
exactement.
Les déplacements.
Qui, par exemple, qui marche, identifie l'acte sexuel, puisqu'on est capable...
Leïla, t'es foutu.
Non, on enlève sa montre, je suis désolée.
En tout cas, les auditeurs auront votre bon
ça
conseil.
Ça griffe après, Daniel.
C'est effectivement le fait qu'on a en continu des éléments qui pourraient paraître anodins. Il n'empêche que identifier sur une masse de gens, oui, on sait sur une courbe à quoi ressemble, de par l'analyse statistique, ce que ressemble par exemple à un acte sexuel.
Oh là là là. Oh là
là. Ça fait longtemps qu'il ne sait plus, Daniel.
Non, Daniel est miné parce que lui, son bracelet connecté, il l'avait mis autour de...
Non, pas de la cheville.
Merci. Nicolas Arpajan, on a envie de se plonger dans ce que sais-je, la cybersécurité. Merci d'être venu.
Vous êtes hyper flippant, monsieur.
Merci. Oui, mais passionnant. Merci d'être venu à ce micro. Tanguy Pastureau, de tout temps, l'être humain s'est drogué.
Oui, et ceci plus de 10 siècles avant la création de la cérémonie des Césars. Puisqu'en Bolivie, le pays du quinoa équitable, donc notre pays à nous, à France Inter, s'il y a la guerre en France, on partira tous là-bas en pédalo pour ne pas polluer. Et bien, en Bolivie, on a découvert un kit de junkie datant d'il y a 1000 ans, avec traces de cocaïne et tout.
La totale, ouais. Ça t'intéresse.
Okay, ouais, super.
On en parle après les infos de midi. La bande originale avec Léla Cadeau-Boudanis, Daniel Morin,
bonjour, Léla.
Albert Algoum, Guillaume Auguste, Tanguy Passion.
Bonjour.
Et notre invité, Monsieur Elgin Milan.
Bravo.
Avec ce bug possible, donc, on l'a entendu tout à l'heure avec notre spécialiste Nicolas Pagian, qui et d'ailleurs ça vous dites, je vais lire son livre, c'est-à-dire que cette toute nouvelle information peut venir alimenter vos futurs scénarios.
Absolument, j'en suis sûr. Oui. Le même, d'ailleurs, le danger, c'est de trop le pr-